La croyance de tous, la foi, est l'effet du besoin de tous, de leur désir unanime. Le jugement magique est l'objet d'un consentement social, traduction d'un besoin social. C'est parce que l'effet désiré par tous est constaté par tous que le moyen est reconnu apte à produire l'effet. C'est parce qu'il désirait la guérison des fiévreux que l'aspersion d'eau froide, le contact sympathique avec une grenouille, semblait aux hindous, qui avaient recours au brahman de l'Atharvaveda, des antagonistes suffisants de la fièvre tierce ou quarte. En définitive, c'est toujours la société qui se paye elle-même de la fausse monnaie de son rêve. Henri Hubert et Marcel Mauss, esquisse d'une théorie générale de la magie, 1904. Quelques mots en guise d'introduction. Lorsque j'ai entrepris l'écriture de ce livre, les objectifs que j'avais en tête étaient relativement modestes. Je souhaitais avant tout apporter ma contribution aux théories anthropologiques de la valeur. Nombre d'anthropologues pensent depuis longtemps qu'il nous faudrait une théorie de la valeur, c'est-à-dire une théorie qui viserait à comprendre non plus comment les diverses cultures définissent le monde de manière radicalement différente, tâche dont les anthropologues se sont toujours acquittés avec talent, mais comment, dans le même temps, elles définissent ce qui est beau, vaut la peine ou importe dans ce monde. À apprécier, en quelque sorte, comment le sens se traduit en désir. Il deviendrait alors possible de résoudre quantité de problèmes notoirement épineux, en anthropologie pour commencer, et plus généralement en sciences sociales. Je me demandais donc si je serais capable d'esquisser à grands traits une telle théorie, et aussi de la relier à certaines idées sur la richesse, le pouvoir et la nature de l'argent que j'avais exposées dans un article il y a déjà quelques années. Toutefois, en cours de rédaction, il a commencé à se passer quelque chose. À mesure que j'écrivais, je me heurtais au fait que mes propres hypothèses et priorités étaient à bien des égards diamétralement opposées à celles qui sont considérées aujourd'hui comme relevant du bon sens en sciences sociales. En tout cas, dans ces disciplines qui se croient les plus engagées politiquement, sociologie, anthropologie, histoire, études culturelles, etc. Chaque fois qu'il me fallait clarifier des points de divergence, je prenais conscience que ce livre devenait nettement plus ambitieux. D'une certaine manière, il acquérait les qualités d'un traité politique, ou du moins d'une réflexion approfondie sur les relations entre des disciplines comme l'anthropologie et la politique. La version officielle de l'histoire, le genre de récit qu'un journaliste tiendrait pour acquis, présente les dernières décennies du XXe siècle comme une période où la gauche américaine s'est en grande partie repliée dans les universités et leurs écoles doctorales pour élaborer une métathéorie radicale toujours plus obscure, déconstruisant à tout bout de champ, pendant qu'autour d'elle, le reste du monde devenait toujours plus conservateur. En caricaturant grossièrement, je suppose que ce n'est pas totalement inexact. Pourtant, les événements récents laissent à penser qu'il serait possible de raconter cette histoire autrement. Ces dernières années, de nouveaux mouvements sociaux ont pris leur essor, en particulier des mouvements contre le néolibéralisme. Aux États-Unis, on parle d'idéologie du libre marché. Et ce, partout dans le monde, même aux États-Unis, quoique avec quelques retards. Toutefois, la soi-disant gauche universitaire américaine n'a joué pratiquement aucun rôle dans cette séquence. Et, de fait, nombre de ses membres présumés ne semblent que vaguement conscients de l'existence de tels mouvements. Peut-être n'est-ce pas si surprenant après tout. Le néolibéralisme reste un sujet à propos duquel la métathéorie critique moderne n'a jamais eu grand-chose à dire. Mais pourquoi donc ? J'ai l'impression que cette théorie critique a en réalité anticipé les arguments néolibéraux de mille et une façons. Prenez le concept de postmodernisme, par exemple. Bon, c'est vrai qu'il est assez délicat à manier. D'ailleurs, peu d'universitaires se qualifient de postmodernes. Mais voilà précisément ce qui a rendu ce terme si puissant. Le postmodernisme n'a jamais constitué une proposition formulée par quelqu'un. C'est un fait accompli qui se devait d'être unanimement accepté. À partir des années 1980, il est devenu fréquent d'être confronté à une batterie d'arguments qui pourraient schématiquement être résumés ainsi. 1. nous vivons aujourd'hui à l'ère postmoderne. Le monde a changé. Personne n'est responsable, cela s'est simplement produit par suite de processus inexorables. Nous ne pouvons rien y faire, à part nous adapter à ces nouvelles conditions. 2. Notre condition postmoderne a pour conséquence, entre autres, que les projets qui visent à changer le monde ou la société par l'action politique collective ne sont plus viables. Tout est brisé et fragmenté. De toute façon, de tels programmes s'avéreront tôt ou tard impossibles ou produiront des cauchemars totalitaires. 3. Et si cela semble laisser peu de place à la capacité d'agir humaine dans l'histoire, il n'y a pas lieu de désespérer complètement. L'action politique légitime peut encore advenir, à condition qu'elle se situe au niveau personnel, en façonnant des identités subversives, des formes de consommation créative, etc. Une telle action est en soi politique et potentiellement émancipatrice. Évidemment, il s'agit là d'une caricature. Les arguments réellement mis en avant dans n'importe quelle publication théorique de l'époque étaient en règle générale infiniment plus complexes. Pourtant, ces trois thèmes revenaient invariablement sous une forme ou une autre. Maintenant, comparez-les avec les arguments édictés à partir des années 1990 dans les médias populaires au sujet d'un phénomène appelé mondialisation. 1. Nous vivons aujourd'hui à l'ère du marché mondial. Le monde a changé. Personne n'est responsable. Cela s'est simplement produit par suite de processus inexorables. Nous ne pouvons rien y faire à part nous adapter à ces nouvelles conditions. 2. En conséquence de quoi, les projets qui visent à changer la société par une action politique collective ne sont plus viables. Les rêves de révolution se sont avérés impossibles, voire voués à produire des cauchemars totalitaires. Il nous faut abandonner toute idée de changer la société, même par la voie des urnes, au nom de la compétitivité. 3. Si cela semble laisser peu de place à la démocratie, il n'y a pourtant pas lieu de désespérer. Les comportements de marché, et en premier lieu les choix de consommation individuelle, sont la démocratie. Il s'agit même là de toute la démocratie dont nous aurons jamais besoin. Bien sûr, il existe une énorme différence entre les deux argumentations. Les tenants du postmodernisme affirment en premier lieu que nous sommes entrés dans un monde où tous les systèmes totalisants, la science, l'humanité, la nation, la vérité, etc., ont volé en éclats. Plus aucun grand mécanisme ne permet d'assembler un monde désormais morcelé en fragments incommensurables. Il n'est même plus possible d'imaginer un seul étalon de valeur à l'aune duquel tout mesurer. De leur côté, les néolibéraux chantent les louanges d'un marché mondial qui, en réalité, constitue le plus grand, le plus monolithique de tous les systèmes de mesure jamais créés. Un système total qui subordonnerait tout sur la planète. Tous les objets, la moindre parcelle de terre, toutes les compétences et l'ensemble des relations humaines, a une unique valeur étalon. À l'évidence, ce que décrivaient les champions du postmodernisme n'était en grande partie que les effets de ce régime de marché universel qui, à l'instar de n'importe quel système de valeurs totalisant, a tendance à semer le doute et le désarroi chez tous les autres. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne s'en soient pas rendus compte. Comment est-ce possible? Et pourquoi leur a-t-il été si difficile de critiquer un système qui paraissait tirer à bout portant sur toutes leurs revendications? Sans doute parce que les personnes qui employaient des mots comme « postmodernisme » ne se sont jamais réellement imaginées qu'elles revendiquaient quoi que ce soit. Elles n'étaient nullement en train de rédiger des manifestes pour un mouvement postmoderne. Elle pensait juste décrire quelques processus inexorablement en cours, mis en mouvement par quelques forces structurelles. Et, là encore, leur attitude n'était qu'une version exacerbée d'un comportement alors tout à fait courant. Voilà à mon avis comment expliquer au mieux l'actuelle paralysie. Pour dire les choses crûment, maintenant qu'il est clair que les forces structurelles ne risquent pas de produire d'elles-mêmes quelque chose qui soit à notre goût, seule nous reste la perspective d'imaginer de véritables alternatives. Même si l'on ne tient pas compte du fait que cela nécessiterait de décider qui nous sommes, ce qui est toujours intimidant, cette situation exigerait d'opérer un grand changement dans les habitudes théoriques.